Le capital sans les notes, livre premier, troisième section, chapitre grand 10, grand 5. Loi coercitive pour la prolongation de la journée de travail depuis le milieu du XIVe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'une journée de travail? Quelle est la durée du temps pendant lequel le capital a le droit de consommer la force de travail dont il achète la valeur pour un jour? Jusqu'à quel point la journée peut-elle être prolongée au-delà du travail nécessaire à la reproduction de cette force? À toutes ces conditions, comme on a pu le voir, le capital répond « La journée de travail comprend 24 heures pleines, déduction faite des quelques heures de repos sans lesquelles la force de travail refuse absolument de reprendre son service. » Il est évident par soi-même que le travailleur n'est rien autre chose, sa vie durant, que force de travail, et qu'en conséquence, tout son temps disponible est de droit et naturellement, temps de travail appartenant au capital et à la capitalisation. Du temps pour l'éducation, pour le développement intellectuel, pour l'accomplissement de fonctions sociales, pour les relations avec parents et amis, pour le libre jeu des forces du corps et de l'esprit, même pour la célébration du dimanche, et cela dans le pays des sanctificateurs du dimanche. Pure niaiserie. Mais dans sa passion aveugle et démesurée, dans sa gloutonnerie de travail extra, le capital dépasse non seulement les limites morales, mais encore la limite physiologique extrême de la journée de travail. Il usurpe le temps qu'exige la croissance, le développement et l'entretien du corps en bonne santé. Il vole le temps qui devrait être employé à respirer l'air libre et à jouir de la lumière du soleil. Il lésine sur le temps des repas et l'incorpore, toutes les fois qu'il le peut, au procès même de la production, de sorte que le travailleur, rabaissé au rôle de simple instrument, se voit fournir sa nourriture comme on fournit du charbon à la chaudière, de l'huile et du suif à la machine. Il réduit le temps de sommeil, destiné à renouveler et à rafraîchir la force vitale, au minimum d'heures de lourde torpeur sans lequel l'organisme épuisé ne pourrait plus fonctionner. Bien loin que ce soit l'entretien normal de la force de travail qui serve de règle pour la limitation de la journée de travail, c'est au contraire la plus grande dépense possible par jour, si violente et si pénible qu'elle soit, qui règle la mesure du temps de répit de l'ouvrier. Le capital ne s'inquiète point de la durée de la force de travail. Ce qui l'intéresse uniquement, c'est le maximum qui peut en être dépensé dans une journée. Et il atteint son but en abrégeant la vie du travailleur. De même qu'un agriculteur avide obtient de son sol un plus fort rendement en épuisant sa fertilité. La production capitaliste, qui est essentiellement production de plus-value, absorption de travail extra, ne produit donc pas seulement par la prolongation de la journée qu'elle impose la détérioration de la force de travail de l'homme en la privant de ses conditions normales de fonctionnement et de développement, soit au physique, soit au moral, elle produit l'épuisement et la mort précoce de cette force. Elle prolonge la période productive du travailleur pendant un certain laps de temps, en abrégeant la durée de sa vie. Mais la valeur de la force de travail comprend la valeur des marchandises sans lesquelles la reproduction du salarié ou la propagation de sa classe serait impossible. Si donc la prolongation contre nature de la journée de travail, à laquelle aspire nécessairement le capital en raison de son penchant démesuré à se faire valoir toujours davantage, raccourcit la période vitale des ouvriers et par suite la durée de leur force de travail, la compensation des forces usées doit être nécessairement plus rapide. Et en même temps, la somme des frais qu'exige leur reproduction, plus considérable. De même que, pour une machine, la portion de valeur qui doit être reproduite chaque jour est d'autant plus grande que la machine s'use plus vite. Il semblerait en conséquence que l'intérêt même du capital réclame de lui une journée de travail normale. Le propriétaire d'esclaves achète son travailleur comme il achète son bœuf. En perdant l'esclave, il perd un capital qu'il ne peut rétablir que par un nouveau déboursé sur le marché. Mais, ouvrez les guillemets, si fatale et si destructive que soit l'influence des champs de riz de la Géorgie et des marais du Mississippi sur la constitution de l'homme, la destruction qui s'y fait de la vie humaine n'y est jamais assez grande pour qu'elle ne puisse être réparée par le trop-plein des réservoirs de la Virginie et du Kentucky. Les considérations économiques qui pourraient, jusqu'à un certain point, garantir à l'esclave un traitement humain, si sa conservation et l'intérêt de son maître étaient identiques, se changent en autant de raisons de ruine absolue pour lui quand le commerce d'esclaves est permis. Dès lors, en effet, qu'il peut être remplacé facilement par des nègres étrangers, la durée de sa vie devient moins importante que sa productivité. Aussi, est-ce une maxime, dans les pays esclavagistes, que l'économie la plus efficace consiste à pressurer le bétail humain, human chattel entre parenthèses, de telle sorte qu'il fournisse le plus grand rendement possible dans le temps le plus court. C'est sous les tropiques, là même où les profits annuels de la culture égale souvent le capital entier des plantations, que la vie des nègres est sacrifiée sans le moindre scrupule. C'est l'agriculture de l'Inde occidentale, berceau séculaire de richesses fabuleuses, qui a englouti des millions d'hommes de race africaine. C'est aujourd'hui à Cuba, dont les revenus se comptent par millions et dont les planteurs sont des nababs, que nous voyons la classe des esclaves non seulement nourrie de la façon la plus grossière et en butte aux vexations les plus acharnées, mais encore détruite directement, en grande partie, par la longue torture d'un travail excessif et le manque de sommeil et de repos. Fermez les guillemets. Mutato nomine de te fabula narratur. Note de la donneuse de voix. La version du texte aux éditions Quadridge donne la signification et l'origine de cette expression latine. Ouvrez les guillemets. Sous un autre nom, c'est de toi qu'il s'agit. Fermez les guillemets. Horace, livre premier, satire 1. Fin de la note de la donneuse de voix. Au lieu de commerce d'esclaves, lisez Marché du travail. Au lieu de Virginie et Kentucky, lisez Irlande et les districts agricoles d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles. Au lieu d'Afrique, lisez Allemagne. Il est notoire que l'excès de travail moissonne les raffineurs de Londres. Et néanmoins, le marché du travail à Londres regorge constamment de candidats pour la raffinerie, allemands la plupart, voués à une mort prématurée. La poterie est également une des branches d'industrie qui fait le plus de victimes. Manque-t-il pour cela de potiers ? Josiah Wedgwood, l'inventeur de la poterie moderne, d'abord simple ouvrier lui-même, déclarait en 1785 devant la Chambre des communes que toutes les manufactures occupaient de 15 000 à 20 000 personnes. En 1861, la population seule des sièges de cette industrie, disséminée dans les villes de la Grande-Bretagne, en comprenait 101 302. Ouvrez les guillemets. L'industrie cotonnière date de 90 ans, trois petits points. en 3 générations de la race anglaise, elle a dévoré 9 générations d'ouvriers. Fermez les guillemets. À vrai dire, dans certaines époques d'activité fiévreuse, le marché du travail a présenté des vides qui donnaient à réfléchir. Il en fut ainsi, par exemple, en 1834. Mais alors, messieurs les fabricants proposèrent aux « Poor Law Commissioners » d'envoyer dans le Nord l'excès de population des districts agricoles, déclarant, ouvrez les guillemets, qu'ils se chargeaient de les absorber et de les consommer, fermez les guillemets. C'était leur propre parole, ouvrez les guillemets. Des agents furent envoyés à Manchester avec l'autorisation des « Poor Law Commissioners ». Des listes de travailleurs agricoles furent confectionnées et remises aux sudits agents. Les fabricants coururent dans les bureaux et, après qu'ils eurent choisi ce qui leur convenait, les familles furent expédiées du sud de l'Angleterre. Ces paquets d'hommes furent livrés avec des étiquettes, comme des ballots de marchandises, et transportés par la voie des canaux ou dans des chariots à bagages. Quelques-uns suivaient à pied, et beaucoup d'entre eux erraient çà et là, égarés et demi-morts de faim dans les districts manufacturiers. La Chambre des communes pourra à peine le croire. Ce commerce régulier, ce trafic de chair humaine, ne fit que se développer. Et les hommes furent achetés et vendus par les agents de Manchester aux fabricants de Manchester, tout aussi méthodiquement que les nègres aux planteurs des États du Sud. Trois petits points. L'année 1860 marque le zénith de l'industrie cotonnière. Les bras manquèrent de nouveau, et de nouveau, les fabricants s'adressèrent aux marchands de chair, et ceux-ci se mirent à fouiller les dunes de Dorset, les collines de Devon et les plaines de Wilts. Mais l'excès de population était déjà dévoré. Le Barry Guardian se lamenta. Après la conclusion du traité de commerce anglo-français, s'écria-t-il, 10 000 bras de plus pourraient être absorbés, et bientôt il en faudra 30 ou 40 000 encore. Quand les agents et sous-agents du commerce de chair humaine eurent parcouru à peu près sans résultat, en 1860, les districts agricoles, les fabricants envoyèrent une députation à M. Villiers, le président du Poor Law Board, pour obtenir de nouveau qu'on leur procurât, comme auparavant, des enfants pauvres ou des orphelins des workhouses. Fermez les guillemets. L'expérience montre en général aux capitalistes qu'il y a un excès constant de population, c'est-à-dire excès par rapport aux besoins momentanés du capital, bien que cette masse surabondante soit formée de générations humaines malvenues, rabougries, promptes à s'éteindre, s'éliminant hâtivement les unes les autres et cueillies, pour ainsi dire, avant maturité. L'expérience montre aussi, à l'observateur intelligent, avec quelle rapidité la production capitaliste qui, historiquement parlant, date d'hier, attaque à la racine même la substance et la force du peuple. Elle lui montre comment la dégénérescence de la population industrielle n'est ralentie que par l'absorption constante d'éléments nouveaux empruntés aux campagnes et comment les travailleurs des champs, malgré l'air pur et malgré le principe de « sélection naturelle » entre guillemets, qui règne si puissamment parmi eux et ne laisse croître que les plus forts individus, commencent eux-mêmes à dépérir. Mais le capital, qui a de si, ouvrez les guillemets, bonnes raisons, fermez les guillemets, pour nier les souffrances de la population ouvrière qui l'entoure, est aussi peu ou tout autant influencé dans sa pratique par la perspective de la pourriture de l'humanité et finalement de sa dépopulation, que par la chute possible de la Terre sur le Soleil. Dans toute affaire de spéculation, chacun sait que la débâcle viendra un jour, mais chacun espère qu'elle emportera son voisin, après qu'il aura lui-même recueilli la pluie d'or au passage et l'aura mise en sûreté. Après moi le déluge. Telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. Le capital ne s'inquiète donc point de la santé et de la durée de la vie du travailleur s'il n'y est pas contraint par la société. À toute plainte élevée contre lui à propos de dégradation physique et intellectuelle, de mort prématurée, de torture du travail excessif, il répond simplement, ouvrez les guillemets, « Pourquoi nous tourmenter de ces tourments puisqu'ils augmentent nos joies ?» ouvrez la parenthèse, « nos profits », fermez la parenthèse, fermez les guillemets. Il est vrai qu'apprendre les choses dans leur ensemble, cela ne dépend pas non plus de la bonne ou mauvaise volonté du capitaliste individuel. La libre concurrence impose aux capitalistes les lois immanentes de la production capitaliste comme loi coercitive externe. L'établissement d'une journée de travail normale est le résultat d'une lutte de plusieurs siècles entre le capitaliste et le travailleur. Cependant, l'histoire de cette lutte présente deux courants opposés. Que l'on compare, par exemple, la législation manufacturière anglaise de notre époque avec les statuts du travail en Angleterre depuis le XIVe jusqu'au-delà de la moitié du XVIIIe siècle. Tandis que la législation moderne raccourcit violemment la journée de travail, ses anciens statuts essayent violemment de la prolonger. Assurément, les prétentions du capital encore à l'état d'embryon, alors qu'en train de grandir, il cherche à s'assurer son droit à l'absorption d'un quantum suffisant de travail extra, non par la puissance seule des conditions économiques, mais avec l'aide des pouvoirs publics, nous paraissent tout à fait modestes si nous les comparons aux concessions que, une fois arrivé à l'âge mûr, il est contraint de faire en rechignant. Il faut en effet des siècles pour que le travailleur « libre » entre guillemets, par suite du développement de la production capitaliste, se prête volontairement, c'est-à-dire soit contraint socialement, à vendre tout son temps de vie active, sa capacité de travail elle-même, pour le prix de ses moyens de subsistance habituels, son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il est donc naturel que la prolongation de la journée de travail, que le capital, depuis le milieu du XIVe jusqu'à la fin du XVIIe siècle, cherche à imposer avec l'aide de l'État aux hommes, corresponde à peu de choses près à la limite du temps de travail que l'État décrète et impose çà et là dans la seconde moitié du XIXe siècle pour empêcher la transformation du sang d'enfant en capital. Ce qui aujourd'hui, par exemple, dans le Massachusetts, tout récemment encore l'État le plus libre de l'Amérique du Nord, est proclamé la limite légale du temps de travail d'enfants au-dessous de 12 ans, était en Angleterre, au milieu du XVIIe siècle, la journée de travail normale de vigoureux artisans, de robustes garçons de ferme et d'athlétiques forgerons. Le premier, ouvrez les guillemets, Statute of Laborers, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Édouard III, 1349, fermez la parenthèse, trouva son prétexte immédiat, non sa cause, car la législation de ce genre dure des siècles après que le prétexte a disparu, dans la grande peste qui décima la population, à tel point que, suivant l'expression d'un écrivain tory, ouvrez les guillemets, la difficulté de se procurer des ouvriers à des prix raisonnables, ouvrez la parenthèse, c'est-à-dire à des prix qui laissassent à leur patron un quantum raisonnable de travail extra, fermez la parenthèse, devint en réalité insupportable, fermez les guillemets. En conséquence, la loi se chargea de dicter des salaires raisonnables, ainsi que de fixer la limite de la journée de travail. Ce dernier point qui nous intéresse seul ici est reproduit dans le statut de 1496, ouvrez la parenthèse, sous Henri VIII, fermez la parenthèse. La journée de travail pour tous les artisans, artificers, entre parenthèses, et travailleurs agricoles, de mars en septembre, devait alors durer, ce qui cependant ne fut jamais mis à exécution, de 5 heures du matin à 7 heures et 8 heures du soir. Mais les heures de repas comprenaient 1 heure pour le déjeuner, 1 heure et demie pour le dîner et 1/2 heure pour la collation vers 4 heures, c'est-à-dire précisément le double du temps fixé par le Factory Act aujourd'hui en vigueur. En hiver, le travail devait commencer à 5 heures du matin et finir au crépuscule du soir avec les mêmes interruptions. Un statut d'Élisabeth, 1562 entre parenthèses, pour tous les ouvriers, ouvrez les guillemets, loués par jour ou par semaine, fermez les guillemets, laisse intacte la durée de la journée de travail, mais cherche à réduire les intervalles à 2 heures et demie pour l'été et 2 heures pour l'hiver. Le dîner ne doit durer qu'une heure et, ouvrez les guillemets, le sommeil d'une demi-heure l'après-midi, fermez les guillemets, ne doit être permis que de la mi-mai à la mi-août. Pour chaque heure d'absence, il est pris sur le salaire 1 pence, 10 centimes entre parenthèses. Dans la pratique cependant, les conditions étaient plus favorables aux travailleurs que dans le livre des statuts. William Petty, le père de l'économie politique et jusqu'à un certain point l'inventeur de la statistique, dit, dans un ouvrage qu'il publia dans le dernier tiers du XVIIe siècle, ouvrez les guillemets, les travailleurs, ouvrez la parenthèse, laboring men, à proprement parler alors, les travailleurs agricoles, fermez la parenthèse, travaillent 10 heures par jour et prennent 20 repas par semaine, savoir 3 les jours ouvrables et 2 le dimanche. Il est clair d'après cela que s'ils voulaient jeûner le vendredi soir et prendre leur repas de midi en 1 heure et demie, tandis qu'ils y emploient maintenant 2 heures, de 11 heures du matin à 1 heure, en d'autres termes, s'ils travaillaient 1/20 de plus et consommaient 1/20 de moins, le 1/10 de l'impôt cité plus haut serait prélevable. Le docteur Andrew Ure n'avait-il pas raison de décrier le bill des 12 heures de 1833 comme un retour au temps des ténèbres? Les règlements contenus dans les statuts et mentionnés par Petty concernent bien aussi les apprentis, mais on voit immédiatement par les plaintes suivantes où en était encore le travail des enfants même à la fin du XVIIe siècle. Ouvrez les guillemets. Nos jeunes garçons, ici en Angleterre, ne font absolument rien jusqu'au moment où ils deviennent apprentis. Et alors, ils ont naturellement besoin de beaucoup de temps, 7 années entre parenthèses, pour se former et devenir des ouvriers habiles, fermez les guillemets. Par contre, l'Allemagne est glorifiée parce que là, les enfants sont dès le berceau, ouvrez les guillemets, habitués au moins à quelque peu d'occupation, fermez les guillemets. Pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle, jusqu'à l'époque de la grande industrie, le capital n'était pas parvenu en Angleterre, en payant la valeur hebdomadaire de la force de travail, à s'emparer du travail de l'ouvrier pour la semaine entière, à l'exception cependant de celui du travailleur agricole. De ce qu'ils pouvaient vivre toute une semaine avec le salaire de 4 jours, les ouvriers ne concluaient pas le moins du monde qu'ils devaient travailler les 2 autres jours pour le capitaliste. Une partie des économistes anglais au service du capital dénonça cette obstination avec une violence extrême. L'autre partie défendit les travailleurs. Écoutons par exemple la polémique entre Postlethwaite, dont le dictionnaire de commerce jouissait alors de la même renommée qu'aujourd'hui ceux de McCulloch, de MacGregor, etc., et l'auteur déjà cité de « L'essai on Trade and Commerce ». Postlethwaite dit entre autres, ouvrez les guillemets. Je ne puis terminer ces courtes observations sans signaler certaines locutions triviales et malheureusement trop répandues. Quand l'ouvrier, disent certaines gens, peut, dans 5 jours de travail, obtenir de quoi vivre. Il ne veut pas travailler 6 jours entiers. Et, partant de là, il conclut à la nécessité d'enchérir même les moyens de subsistance nécessaires par des impôts ou d'autres moyens quelconques pour contraindre l'artisan et l'ouvrier de manufacture à un travail ininterrompu de 6 jours par semaine. Je demande la permission d'être d'un autre avis que ces grands politiques, tout prêts à rompre une lance en faveur de l'esclavage perpétuel de la population ouvrière de ce pays. Ouvrez les guillemets. The perpetual slavery of the working people. Fermez les guillemets. Ils oublient le proverbe. Ouvrez les guillemets. All work and no play, etc. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Rien que du travail et pas de jeu rend imbécile. Fermez la parenthèse. Les Anglais ne se montrent-ils pas tout fiers de l'originalité et de l'habileté de leurs artisans et ouvriers de manufacture qui ont procuré partout aux marchandises de la Grande-Bretagne crédit et renommée? À quoi cela est-il dû, si ce n'est à la manière gaie et originale dont les travailleurs savent se distraire? S'ils étaient obligés de trimer l'année entière, tous les 6 jours de chaque semaine, dans la répétition constante du même travail, leur esprit ingénieux ne s'émousserait-il pas? Ne deviendraient-ils pas stupides et inertes? Et par un semblable esclavage perpétuel, ne perdraient-ils pas leur renommée au lieu de la conserver? Quel genre d'habileté artistique pourrions-nous attendre d'animaux si rudement menés? Ouvrez les guillemets. Hard-driven animals. Fermez les guillemets. 3 petits points. Beaucoup d'entre eux exécutent autant d'ouvrages en 4 jours qu'un Français dans 5 ou 6. Mais si les Anglais sont forcés de travailler comme des bêtes de somme, il est à craindre qu'ils ne tombent, degenerate, entre parenthèses, encore au-dessous des Français. Si notre peuple est renommé par sa bravoure dans la guerre, ne disons-nous pas que ceci est dû, d'un côté, au bon roast beef anglais et au pudding qu'il a dans le ventre, et de l'autre, à son esprit de liberté constitutionnelle? Et pourquoi l'ingéniosité, l'énergie et l'habileté de nos artisans et ouvriers de manufacture ne proviendraient-elles pas de la liberté avec laquelle ils s'amusent à leur façon? J'espère qu'ils ne perdront jamais ces privilèges, ni le bon genre de vie d'où découlent également leur habileté au travail et leur courage. Fermez les guillemets. Voici ce que répond l'auteur de « L'essai on Trade and Commerce ». Ouvrez les guillemets. Si c'est en vertu d'une ordonnance divine que le 7e jour de la semaine est fêté, il en résulte évidemment que les autres jours appartiennent au travail. Ouvrez la parenthèse. Il veut dire au capital, ainsi qu'on va le voir plus loin. Fermez la parenthèse. Et contraindre à exécuter ce commandement de Dieu n'est point un acte que l'on puisse traiter de cruel. L'homme, en général, est porté par nature à rester oisif et à prendre ses aises. Nous en faisons la fatale expérience dans la conduite de notre plèbe manufacturière qui ne travaille pas en moyenne plus de 4 jours par semaine, sauf le cas d'un enchérissement des moyens de subsistance. 3 petits points. Supposons qu'un boisseau de froment représente tous les moyens de subsistance du travailleur, qu'il coûte 5 shillings et que le travailleur gagne 1 shilling tous les jours. Dans ce cas, il n'a besoin de travailler que 5 jours par semaine. 4 seulement si le boisseau coûte 4 shillings. 3 petits points. Mais comme le salaire dans ce royaume est beaucoup plus élevé en comparaison du prix des subsistances, l'ouvrier de manufacture qui travaille 4 jours possède un excédent d'argent avec lequel il vit sans rien faire le reste de la semaine. 3 petits points. J'espère avoir assez dit pour faire voir clairement qu'un travail modéré de 6 jours par semaine n'est point un esclavage. Nos ouvriers agricoles font cela, et d'après ce qu'il paraît, ils sont les plus heureux des travailleurs. Ouvrez la parenthèse, laboring poor, entre parenthèses. Les Hollandais font de même dans les manufactures et paraissent être un peuple très heureux. Les Français, sauf qu'ils ont un grand nombre de jours fériés, travaillent également toute la semaine. 3 petits points. Mais notre plèbe manufacturière s'est mis dans la tête l'idée fixe qu'en qualité d'anglais, tous les individus qui la composent ont, par droit de naissance, le privilège d'être plus libres et plus indépendants que les ouvriers de n'importe quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut avoir son utilité pour les soldats, dont elle stimule la bravoure. Mais moins les ouvriers des manufactures en sont imbus, mieux cela vaut pour eux-mêmes et pour l'État. Des ouvriers ne devraient jamais se tenir pour indépendants de leurs supérieurs. Il est extrêmement dangereux d'encourager de pareils engouements dans un État commercial comme le nôtre, où peut-être les 7/8 de la population n'ont que peu ou pas du tout de propriété. La cure ne sera pas complète tant que nos pauvres de l'industrie ne se résigneront pas à travailler 6 jours pour la même somme qu'ils gagnent maintenant en 4. Fermez les guillemets. Dans ce but, ainsi que pour extirper la paresse, la licence, les rêvasseries de liberté chimérique, et de plus pour, ouvrez les guillemets, diminuer la taxe des pauvres, activer l'esprit d'industrie et faire baisser le prix du travail dans les manufactures, fermez les guillemets, notre fidèle champion du capital propose un excellent moyen. Et quel est-il? C'est d'incarcérer les travailleurs qui sont à la charge de la bienfaisance publique, en un mot, les pauvres, dans une maison idéale de travail, ouvrez les guillemets, un ideal workhouse, fermez les guillemets. Cette maison doit être une maison de terreur, ouvrez la parenthèse, house of terror, fermez la parenthèse. Dans cet idéal de workhouse, on fera travailler 14 heures par jour, de telle sorte que le temps des repas soustrait, il reste 12 heures de travail pleines et entières. Douze heures de travail par jour. Tel est l'idéal, le nec plus ultra, dans le workhouse modèle, dans la maison de terreur de 1770. 63 ans plus tard, en 1833, quand le Parlement anglais réduisit dans 4 industries manufacturières la journée de travail pour les enfants de 13 ans à 18 ans à 12 heures de travail pleine, il sembla que le glas de l'industrie anglaise sonnerait. En 1852, quand Louis Bonaparte, pour s'assurer la bourgeoisie, voulut toucher à la journée de travail légale, la population ouvrière française cria tout d'une voix. Ouvrez les guillemets. La loi qui réduit à 12 heures la journée de travail est le seul bien qui nous soit resté de la législation de la République. Fermez les guillemets. À Zurich, le travail des enfants au-dessous de 10 ans a été réduit à 12 heures. Dans l'Argovie, le travail des enfants entre 13 et 16 ans a été réduit en 1862 de 12h30 à 12. Il en a été de même en Autriche en 1860 pour les enfants entre 15 et 16 ans. Ouvrez les guillemets. Quel progrès depuis 1770, s'écrierait Macaulay avec exultation entre guillemets, fermez les guillemets. Là, maison de terreur entre guillemets pour les pauvres que l'âme du capital rêvait encore en 1770, se réalisa quelques années plus tard dans la gigantesque maison du travail entre guillemets bâtie pour les ouvriers manufacturiers. Son nom était Fabrique et l'idéal avait pâli devant la réalité.